Alors, imaginez-vous que quelqu'un qu'on ne connaît pas rentre dans notre église le dimanche matin, par exemple, en plein milieu de mon message, là, maintenant. Là, vous vous attendez à ce que moi, je vais parler, que je vais enseigner la parole, puis qu'il y a quelqu'un qui rentre, qu'on ne connaît pas, ou pendant nos moments de louange, puis qui se met à crier dans la salle en annonçant que Dieu va détruire notre ville et notre église, à moins que nous nous repentions, et se met à nous accuser de toutes sortes de péchés. On va avoir le goût de l'accompagner tranquillement jusqu'à la sortie. Il serait vraiment en train de déranger notre programme. Excusez-moi, vous nous dérangez. Au mieux, peut-être on essaierait de l'inviter à s'asseoir sans déranger ou on offrirait de prendre un rendez-vous avec lui pour essayer de comprendre quel est le message qu'il veut nous communiquer. Mais il y a probablement plus de chances qu'on chercherait à le faire accompagner par la sécurité jusqu'à la porte. Et si la personne était pour revenir la semaine prochaine, puis recommencer à faire la même chose, malgré qu'on lui dise d'arrêter, on va commencer à être frustré. Ben, c'est notre église. Oui, c'est public, tout le monde est invité. Si c'est votre première fois, ça fait plaisir que vous soyez là ce matin. Ou si vous nous visitez. Mais on veut un certain ordre. On croit que l'église reconnaît ses leaders. Ce sont eux, les leaders en équipe, les anciens, qui sont responsables de l'enseignement de la direction de l'église. Pas un n'importe qui commence à s'improviser pasteur ou prophète. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine différence. Dieu a déjà parlé. Il l'a fait de façon fiable et finale par sa parole, la Bible. Et c'est pour ça qu'on lit, qu'on médite, qu'on prie, qu'on chante, qu'on enseigne, qu'on prêche la Bible ici. Mais à l'époque de Jérémie, dans l'Ancien Testament, à l'époque des rois d'Israël, le canon des Écritures n'était pas fermé. C'est-à-dire, tous les livres de la Bible n'étaient pas encore écrits, ils étaient en train d'être écrits. Dieu inspirait encore des prophètes pour parler de façon autoritaire et infaillible de la part de Dieu. Des prophètes comme Jérémie. Aujourd'hui, on est dans le troisième dimanche de notre série intitulée « Jérémie, messager de jugement et de grâce ». Et aujourd'hui, on va voir dans le chapitre 7 de Jérémie comment Jérémie se met à la porte du temple et se met à prêcher publiquement, probablement fort, et se met à reprendre les gens pour toutes sortes de péchés, à reprendre le peuple, à reprendre les leaders, que quelqu'un rentre ici puis dire « Benoît, ta-ta-ta-ta, Ovidio, ta-ta-ta-ta, tel péché », puis ensuite qui vous pointe ou qui nous pointe ou peu importe. Ça serait certainement désagréable. Et les chefs religieux de l'époque de Jérémie n'ont pas aimé ça du tout. Sans grande surprise. Pourtant, Jérémie parlait au nom de Dieu. Pourtant, Jérémie avait un appel de Dieu pour parler en son nom. On a vu ça dans le premier chapitre, il y a deux semaines, dans le premier chapitre de Jérémie. On voit que Jérémie avait été appelé par Dieu dès son jeune âge. On ne sait pas si ça voulait dire quel âge, jeune âge. Peut-être qu'il avait 20 ans, peut-être qu'il avait 30 ans. En tout cas, il se sentait trop jeune pour l'appel que Dieu lui avait donné. Pourtant, Dieu lui a dit qu'il mettrait ses paroles dans sa bouche. Et Jérémie a eu un ministère qui a duré 40 ans auprès des rois de Juda, auprès du peuple de Juda. Le royaume d'Israël, les 10 tribus du Nord, avaient déjà été détruites, amenées en exil en Assyrie à peu près 100 ans après. Puis là, Jérémie venait avertir Jérusalem, Juda, le royaume du Sud, si vous ne vous détournez pas de vos idoles et de vos péchés, la même chose va arriver ici. La semaine passée, on a vu dans Jérémie 2 et 3 particulièrement comment, par la bouche de Jérémie, Dieu adressait des reproches envers un peuple idolâtre. On a vu comment l'idolâtrie, c'est non seulement quelque chose des anciennes civilisations, des civilisations moins avancées que nous, mais que l'idolâtrie, dans le fond, se cache dans n'importe quand qu'on cherche notre bonheur, qu'on cherche notre sécurité, qu'on cherche notre identité, notre paix, en autre chose qu'en Dieu. Et ce matin, on va regarder Jérémie 7, le discours de Jérémie dans le temple. Et juste une petite explication de ce qui va être pour notre série. Quand mon collègue Ovidio et moi, les pasteurs de l'Église, on s'est mis ensemble pour essayer d'organiser notre série. On s'est rendu compte que un des thèmes qu'on voulait aborder dans Jérémie 19 à 25, c'est jugement, destruction et restauration. Puis dans notre ordre, ça arrivait le dimanche de l'Action de grâce. Fait qu'on s'est dit, c'est pas très gai pour le dimanche de l'Action de grâce. Donc on a changé un peu les chapitres de bord. Si vous regardez dans votre bulletin, vous pouvez voir la séquence des chapitres que vous pouvez lire. On vous encourage à lire les chapitres 1 à 6 cette semaine. Aujourd'hui, je prêche dans Jérémie 7. Je vous encourage à lire cette semaine Jérémie 7 à 12. Pour traverser tranquillement le livre de Jérémie. Les prophètes, c'est un genre littéraire qui n'est pas facile à aborder. Donc, profitez-en. On a des enseignements sur les prophètes. Donc, pendant que c'est frais dans votre mémoire, profitez-en pour lire le livre du prophète Jérémie. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Jérémie. Donc, si vous ne savez pas trop c'est où, essayez d'ouvrir votre Bible à peu près en plein milieu. Vous allez arriver dans les psaumes. Les psaumes, c'est le plus gros livre de la Bible. Après les psaumes, il y a le livre des proverbes, Ecclésiaste, pas très gros, Cantique des Cantiques, pas très gros. Et ensuite, on arrive dans les prophètes. Il y a quatre grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Donc, après psaumes, proverbes, deux autres petits livres, Ésaïe, 66 chapitres, et Jérémie, livre de 52 chapitres. Puis je vous invite dans Jérémie chapitre 7, ce matin. Alors, les commentateurs appellent communément Jérémie 7, le sermon du temple, le discours de Jérémie dans le temple. On estime qu'il a été prononcé probablement en 609 avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Josiakim. Si vous voulez, vous pouvez tourner un ou deux doigts dans Jérémie 26. Les commentateurs estiment que c'est probablement à ce moment-là. Le livre de Jérémie n'est pas chronologique. C'est un peu difficile de savoir quand est-ce que les choses se passent. On a, par exemple, dans les chapitres 35 et suivants, un événement au règne d'un roi. Puis là, le prochain chapitre, c'est le roi qui régnait avant. Donc, c'est pas chronologique, le livre de Jérémie. Et c'est parfois un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui se passe quand Jérémie a prononcé les différents discours, mais les commentateurs estiment que le discours dans le temple qu'on va regarder aujourd'hui a été prêché dans ce contexte-ci. Je vais juste lire Jérémie 26, commencer au verset 1 et 2. Au début du règne de Josiakim, ou Jéhojakim, fils de Josias sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui viennent de toutes les villes de Juda pour se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en oublie aucune. Peut-être écouteront-ils et renonceront-ils chacun à leur mauvaise conduite. Alors je n'accomplirai pas le mal que j'avais prévu de leur faire à cause de leur méchanceté, à cause de la méchanceté de leurs agissements. Tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, si vous refusez de suivre ma loi, celle que j'ai mise devant vous, si vous refusez d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, ceux que je vous envoie inlassablement, mais que vous n'écoutez pas, alors je traiterai ce temple comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Je vais juste continuer pour donner un peu le contexte. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Il finissait de dire à tout le peuple tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire, lorsque les prêtres, les prophètes et tout le peuple s'emparèrent de lui en disant, « Tu vas mourir! » Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, « Ce temple sera comme silo et cette ville sera dévastée? » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Dieu avait dit à Jérémie que son ministère ne serait pas facile. Il disait dans le chapitre 1, au verset 10, « Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » On a quatre verbes de destruction puis deux verbes de reconstruction. Et les prophètes, ça ressemble à ça. C'est même comme 4 fois plus de promesses de destruction que de promesses d'espoir, de restauration et d'espérance. Mais comme on va voir, dans les livres des prophètes, au milieu de toutes ces annonces de jugement, de destruction, de violence, de sang, il y a une promesse d'espoir. Il y a des lueurs d'espoir pour le peuple d'Israël et pour nous. Alors, avant d'aller plus loin, on va prier, puis ensuite on va lire Jérémie chapitre 7. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir donné ce livre, le livre de ton prophète Jérémie. Seigneur, on regarde sa vie, on regarde les épreuves que lui a vécues, puis on n'aurait pas aimé ça vivre ce que lui a vécu. Mais merci Seigneur de l'avoir gardé fidèle. Merci pour son message qu'il a proclamé avec un courage, avec un zèle qui venait de toi. Et alors qu'on lit ses paroles, Seigneur, alors qu'on l'entend reprendre le peuple d'Israël, Seigneur, rends-nous humbles pour voir comment par ces paroles tu nous reprends aussi. Et comment tu nous appelles à revenir vers toi. Par ton esprit, on prie de rendre ta parole efficace dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire Jérémie, chapitre 7. Je vais lire les versets 1 à 15 pour le moment. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, tu proclameras cette parole. Tu diras, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici le temple de l'Éternel! Le temple de l'Éternel! Le temple de l'Éternel! » Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens à l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé et vous dites « Nous avons été délivrés !» Et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom. Et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez et l'endroit que je vous ai donné. À vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Dans tout le livre de Jérémie, le plus grand péché d'Israël, disons, c'est son idolâtrie. C'est le fait qu'il Oui, il adore Dieu, mais aussi, il aime ça adorer d'autres dieux. Offrir de l'encens à Baal, offrir des sacrifices à Astarté. Au verset 18, dans Jérémie 7 aussi, il y a un exemple de ça, de cette idolâtrie. Il dit « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel. » Ça, c'est pas l'Éternel, ça. « Et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils méritent. » Alors, à travers tout le livre de Jérémie, à travers, on l'a bien vu la semaine passée dans les chapitres 2 et 3, puis ici, à travers le chapitre 7 aussi, l'idolâtrie est constamment présente. Le peuple d'Israël, oui, adore Dieu, adore l'Éternel, mais aime aussi adorer d'autres dieux. Mais ce n'est pas sur ça que je vais mettre l'emphase aujourd'hui. On en a bien parlé la semaine passée. Aujourd'hui, j'aimerais aborder deux autres problèmes que Israël avait, puis essayer de sonder nos cœurs, ou laisser le Seigneur sonder nos cœurs. Est-ce que c'est un problème qui nous guette, nous aussi, comme chrétiens, aujourd'hui? Le premier problème, c'est que la confiance du peuple, ils plaçaient leur confiance dans la religion extérieure et non pas dans la religion du cœur, dans la foi du cœur. Donc, dans les gestes, dans les rituels, dans les bâtisses, comme le temple, au lieu d'avoir des cœurs pleinement consacrés. Deuxième problème, c'est qu'ils bafouaient la justice envers les faibles et les vulnérables. On va regarder ça aujourd'hui. Et comment, à travers tout ça, même que Jérémie vient parler à Israël, qu'il y a eu d'autres prophètes avant et que le peuple n'écoute simplement pas. Le peuple a le cœur endurci. Et à cause de ça, Dieu va venir juger son peuple. Et il va amener Babylone pour détruire Jérusalem et les amener en exil. Alors, à part l'idolâtrie, le premier péché d'Israël que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'ils plaçaient leur confiance dans une religion extérieure, dans des rites, dans des bâtiments. Le temple de Jérusalem était une merveille. Il avait été construit par Salomon dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse, un temple à la gloire de l'Éternel. Un grand temple fait avec les matériaux les plus chers, les plus luxueux, les plus somptueux. Un temple plaqué d'or partout autour, qui était une merveille incroyable. Et le peuple d'Israël, et Dieu, en tout cas David, le père de Salomon, avait dit à Dieu qu'il voulait lui construire un temple. Et c'est pas comme si c'était juste une initiative humaine. Dieu avait dit à David, c'est pas toi qui vas le construire, ça va être ton fils. Puis lorsque sous Salomon, ça a été construit, ça a pris des années. Puis Salomon a prié pour que ce soit le lieu où Dieu serait adoré un peu de façon permanente. Et Dieu s'est manifesté par une nuée. Il est venu entrer dans le temple. Ça plut au Seigneur, la construction de ce temple-là. Et pas juste pour la pierre et l'or, mais pour les cœurs tournés vers lui que cela représentait. Mais à l'époque de Jérémie, à peu près 300 ans plus tard, leur cœur était complètement partagé. Oui, l'Éternel! Et surtout, avez-vous vu le beau temple qu'on a? Parce qu'on a un beau temple de l'Éternel, il ne nous arrivera pas de problème. On peut faire ce qu'on veut. On a le temple, ici à Jérusalem. Oui, Israël, dans le nord, ils ont été déportés, mais c'est normal. Eux, ils n'avaient pas le temple. Nous, on a le temple. Fait que, regarde, oui, Dieu a dit, oui, je vais vous... Oui, Seigneur, OK, tu vas nous châtier, peu importe. Regarde, on a le temple ici. Tu peux pas détruire ton temple quand même. Alors, il y avait cette genre de fausse confiance dans de la pierre, du bois, puis de l'or, alors que leur vie était complètement à l'envers. Le temple était au cœur de la vie du peuple de Juda. C'était à Jérusalem, c'était au temple que les grands événements de l'année avaient lieu, les grandes fêtes pendant l'année, les gens se rassemblaient à Juda. Le temple était la démonstration la plus puissante de l'élection de Dieu à leur égard. et une démonstration puissante de sa présence. Cependant, au lieu de se confier en Dieu et s'assurer d'avoir une saine relation avec lui, le fait d'avoir le temple et de pouvoir accomplir les rituels appropriés au temple affermissait les Judéens dans leur conviction que tout allait bien, peu importe l'état réel de leur cœur en tant que peuple. Au lieu de se confier dans le Dieu que ce temple représentait et de chercher sa face, ils se confiaient dans le temple. Au verset 4, Jérémie, justement, reprend et il dit aux gens, « Vous vous trompez, ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent. C'est ici que le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Wow, quand quelque chose est répété et mentionné trois fois, là, ça c'est vraiment important, c'est vraiment beau. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il a eu cette vision dans la tente de la gloire de Dieu, il a entendu une voix qui disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Cette triple mention, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de ferme, de garanti. Et là, Jérémie dit « Fiez-vous pas sur ces paroles trompeuses. » On répète « Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Mais c'est rien de plus que des paroles. Vos cœurs sont loin de l'Éternel. Ils avaient les sacrifices aussi. Ils avaient les sacrifices, ils avaient la loi. En Jérémie 6, juste le chapitre d'avant, au verset 19, à la fin du verset 19, ça dit « Ils n'ont pas fait attention à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. » Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. Oui, tu m'offres ces sacrifices, mais ensuite tu vas offrir de l'encens à Baal. Oui, tu chantes « Gloire à Dieu » le dimanche matin, puis ensuite tu vas adorer autre chose pendant la semaine. Ou le dimanche après-midi. Il y avait cette impression qu'avoir l'extérieur, avoir la religion extérieure, garantissait la faveur de Dieu, peu importe le restant de la vie. Et Dieu, il leur dit à travers Jérémie, « Vous vous trompez, les amis. » Vous vous souvenez de Silo, où le tabernacle avait été monté avant que le temple soit construit? Il dit, retournez à Silo voir de quoi ça a l'air. Ça a été détruit à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. On n'a pas de détails de ça dans la Bible, de comment ça s'est passé. Probablement dans les guerres contre les Philistins étaient venus, ils avaient emporté l'Arche de l'Alliance. Et là, ils avaient eu toutes sortes de problèmes avec l'Arche de l'Alliance, si vous avez lu ces récits-là dans le livre de Samuel. Mais c'est possible qu'ils avaient détruit le tabernacle ou les installations autour. On n'a pas les détails, mais on voit clairement dans Jérémie que cet endroit-là a été détruit à cause du péché d'Israël. Puis Dieu dit, c'est pas parce que vous avez un beau temple, là, que si vous continuez à vous endurcir, je ne vais pas finir par vous juger. En fin de compte, il leur dit que le peuple est incirconcis de cœur. Dieu avait donné la circoncision à Abraham et ses descendants comme un symbole de son alliance, comme une façon qu'ils porteraient ce symbole-là dans leur chair, qu'ils appartenaient à l'Éternel et à aucun autre Dieu. Et dans Jérémie 9, verset 24, Dieu dit « J'interviendrai contre tous les faux circoncis. » Ou essentiellement, c'est les circoncis hypocrites. C'est ceux qui sont circoncis physiquement, en signe d'appartenance à Dieu, mais qui sont infidèles à Dieu dans leur conduite. Et qui sont ces faux circoncis que Dieu mentionne? Eh bien, l'Égypte. Ah oui, l'Égypte. Ouais, on sait, l'Égypte, eux, ils sont polythéistes, ils adorent toutes sortes de dieux. Judas. Oh, c'est nous, ça, Judas. Avec l'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, d'autres peuples. Puis ensuite, Dieu dit, « En effet, toutes les nations sont incirconcises. Et la communauté d'Israël, tout entière, a le cœur incirconcis. » Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'extérieur. Vous pouvez venir à l'église le dimanche matin. Vous pouvez vous réjouir en chantant des chansons. Vous pouvez être dans la joie pour vrai. Puis ensuite, retourner à la maison, retourner au travail et faire comme bon il vous semble. Est-ce que c'est possible pour nous aussi de placer notre confiance dans autre chose que Dieu, dans ces manifestations extérieures de la foi, de venir à l'Église, de servir à l'Église, de peut-être même être fidèle à lire la Bible, à prier, mais d'avoir le cœur complètement partagé avec toutes sortes d'autres choses. On peut placer notre espérance, être fier un peu peut-être de notre arrière-plan spirituel, de l'Église d'où tu viens, de l'Église où tu as grandi, de la famille d'Église dont tu fais partie, de ta dénomination. Peut-être que tu es bien fier d'être un baptiste évangélique ou un assemblée de Dieu ou peu importe, puis que ça garantit la faveur de Dieu à mon égard. Peut-être la famille d'où tu viens. Peut-être que tu avais des parents qui étaient vraiment exemplaires dans leur foi. Peut-être ta présence à l'Église. Mais toutes ces choses ne garantissent aucunement d'être dans la faveur de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par notre religiosité. Est-ce que notre cœur désire Dieu? Le dimanche matin, peut-être quand ça va... Le dimanche matin, oui, ça va bien le dimanche matin. Puis ensuite, le restant de la semaine, quand on ouvre la télé, quand on ouvre l'Internet, quand on ouvre la radio, quand on se laisse engouffrer par toutes sortes d'autres préoccupations, par toutes sortes d'autres choses qui viennent guerroyer dans nos cœurs. Qu'est-ce que notre cœur aime durant la semaine? Le sport, le magasinage, l'attrait du sexe, l'approbation des autres, le jeu, le divertissement, tous ces faux secours qui ne sont ultimement d'aucun secours. On ne pourra jamais impressionner Dieu par notre religiosité. Et peu importe comment fort on y essaye, comment fort on pourrait essayer, comment on pourrait chercher à laver nos cœurs par notre propre obéissance, par notre propre rigueur, notre péché et notre rébellion nous collent à la peau. C'est impossible pour nous de nous sauver nous-mêmes. Vous savez, Dieu a pourvu à un espoir pour Israël et pour toutes les nations, pour aujourd'hui. Et cet espoir, c'est son Messie. Le nouveau David, le grand prophète, le meilleur Jérémie. On va avoir la chance de le voir, il a beaucoup souffert comme porteur du message de Dieu. Celui qui a le plus souffert, c'est celui qui a quitté la gloire de son ciel. Celui qui s'est identifié à nous en devenant homme, qui s'est rendu jusqu'à la croix pour saigner, être bafoué, mourir pour nous et ressusciter de la mort. La mort à la croix de Jésus et sa résurrection ont payé le prix de notre culpabilité, de sorte que ceux qui se confient en lui voient leur culpabilité complètement lavée. Si tu essaies de te laver par toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Dieu est saint, comme il l'a dit à Ésaïe, saint, saint, saint. Ésaïe est tombé à terre et n'a pas dit, Seigneur, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé d'être un Israélite fidèle. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Et lorsqu'on fait face à la sainteté de Dieu, il n'y a personne qui va être capable d'argumenter autre chose que, malheur à moi, je suis perdu. Mais Dieu pourvoit une expiation pour lui. Il y a quelque chose qui est pris de l'autel. Isaïe dit, j'ai des lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et l'ange, dans sa vision, prend un brasier sur l'autel, vient toucher ses lèvres et dit, voilà, tu es purifié. Bien, l'agneau qui nous a purifiés est mort, non pas sur un autel où il y avait un feu, mais sur une croix, où le feu divin l'a châtié. Où l'exil qui attendait Israël, la destruction de Jérusalem, l'enfer est tombé sur Jésus à la croix par sa mort. Et ceux qui se réfugient en lui ont l'assurance complète que leurs péchés sont lavés. Qu'ils peuvent obtenir la faveur de Dieu, non pas par leur propre obéissance, mais par celle de Jésus à leur place. Est-ce que tu as goûté à ce pardon de Dieu? Est-ce que tu peux venir le dimanche matin, sachant que tu as eu une bonne semaine spirituellement ou une mauvaise semaine spirituellement? Ton assurance ne vient pas de toi, mais elle vient de celui qui est mort à ta place et qui t'a fait sien. Je t'invite à venir à lui et goûter à la paix, à la joie de lui appartenir. Sinon, je t'invite à retourner à la croix encore pour trouver le pardon pour toutes tes idolâtries, pour toutes tes confiances, ta confiance placée à la mauvaise place. Alors, le premier grand problème d'Israël qu'on regardait aujourd'hui, c'est qu'ils plaçaient leur confiance dans la religion extérieure. Un deuxième grand problème que Jérémie soulève ici, c'est que la justice pour les faibles et les vulnérables est complètement bafouée. Lorsque le peuple d'Israël se tourne vers d'autres dieux et oublie l'Éternel, ils se mettent à pécher les uns envers les autres. Tout péché qu'on pourrait dire horizontal entre nous, entre êtres humains, a premièrement une dimension verticale avec Dieu. Mais n'empêche que notre péché a non seulement une dimension verticale, mais aussi une dimension horizontale. Nos péchés, nos rébellions envers Dieu font du mal autour de nous. Et Dieu, par la bouche de Jérémie, dit au peuple d'Israël, réveillez-vous, changez de comportement parce que ça ne marche pas. Au verset 5 dans Jérémie 7, il dit, « Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. » Alors, la raison pour laquelle Jérémie dit ça, c'est parce que c'est un problème. La justice était bafouée, et particulièrement envers ceux qui étaient plus faibles et vulnérables. Au début du verset 6, il mentionne l'exploitation de l'étranger, l'orphelin et la veuve. C'est les trois catégories de gens les plus vulnérables à l'époque. L'étranger, parce qu'il n'y avait peut-être pas de famille, il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas de terre. L'orphelin, parce qu'il n'y avait pas de parents. Et la veuve, parce qu'elle n'avait pas de mari. Parce que les droits passaient par l'homme de la maison, le propriétaire, le mari, l'époux, le père. Alors, s'il n'y avait pas de père dans la vie, alors on était extrêmement vulnérable. Et Dieu a mentionné à son peuple qu'il était le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il leur disait, ne bafouez pas leurs droits, au contraire, prenez soin d'eux. Mais le peuple ici, non seulement ne prenait pas soin de la veuve, l'orphelin, de l'étranger, mais en profitait pour les exploiter. C'est l'appât du gain fait qu'on profite des plus vulnérables pour s'enrichir. Un peu plus tôt, dans Jérémie 5, versets 26 à 29, Dieu mentionne déjà ça. Il dit, « En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets. Comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges, ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement? Déclare l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? » Un petit peu plus loin, dans Jérémie 7, au verset 9, Dieu, il montre comme quoi la vraie foi consiste non pas simplement en les rites, les sacrifices, d'être au temple, de venir pour les prières, un peu les rites religieux. Ça dépend de notre cœur, comme on a parlé. Mais la vraie foi va consister en de bonnes actions aussi, autant que dans des gestes religieux. Et pratiquer des rites sans le cœur dévoué à Dieu et par extension aux plus vulnérables est manquer de refléter le cœur de Dieu. Car c'est dans la nature même de Dieu de porter secours à ceux qui sont vulnérables. Jacques 1, verset 27, nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans la détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Souvent, les églises ont tendance à aller mettre beaucoup d'emphase sur un ou beaucoup d'emphase sur l'autre. Soit vraiment mener une vie sainte, ne pas se souiller, ne pas se laisser souiller par le monde. Et on oublie de prendre soin des orphelins, des veuves, essentiellement de ceux qui sont vulnérables. Et d'autres églises vont un peu aller dans l'autre sens, vont chercher beaucoup à faire beaucoup de bien, à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Mais se laisser souiller par le monde, à ne pas rechercher la sainteté sans laquelle personne ne voit Dieu. C'est intéressant comment Jacques, il les met un peu les deux côte à côte. Grandir dans la sainteté et prendre soin des vulnérables. On est appelé aux deux en tant que chrétien. Et c'est cela même que Jésus a fait. Évidemment, Jésus n'avait pas besoin de grandir dans la sainteté, n'étant pas pécheur, mais Jésus a démontré le cœur de Dieu dans le soin pour les vulnérables. Jésus allait vers les rejetés, vers la femme samaritaine, vers Zachée, vers Matthieu. Zachée et Matthieu, des collecteurs d'impôts. Il allait vers passer du temps avec des prostituées. Et les gens disaient, « Non, ça n'a pas de bon sens. » Jésus était avec des pécheurs, avec les malades, avec les lépreux, avec les démoniaques, avec les délaissés. Et Jésus a montré suprêmement son cœur pour les vulnérables en allant mourir pour tous ceux qui admettaient leur vulnérabilité, leur incapacité à sauver lui-même. Jésus est allé réchapper toute une gang de vulnérables. Et il nous envoie aussi pour annoncer ce message de réconciliation et pour répandre son amour autour de nous. Aujourd'hui, ça vaut la peine de se poser la question, qui sont nos étrangers, nos orphelins, nos veuves? On a une fabrique sociale qui est un peu différente. À l'époque, ta famille était ceux qui prenaient soin de toi. Et dans les sociétés plus traditionnelles, il n'y a pas de filet social, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de bien-être social, où on cherche à s'occuper de ceux qui sont dans une mauvaise passe et idéalement qu'ils puissent se relancer. Mais là, c'est la famille qui prenait soin. Tes parents, tes frères et sœurs, tes enfants. Mais si tu n'avais pas de famille, ou si ta famille était morte, alors tu étais complètement délaissé. Alors aujourd'hui, on a peut-être le bienfait de pouvoir vivre dans une société où il y a ce filet social. peu le côté malencontreux de ça, c'est que les familles, on se déresponsabilise. On prend plus soin tellement des nôtres. On dit, ah, c'est la job du gouvernement de prendre soin de tout le monde. Et on perd de vue le fait que, en tout cas comme chrétien, on se dit, ah ouais, mais le gouvernement va s'en occuper. Puis, non, mais moi j'ai un appel à prendre soin des vulnérables aussi. Mais qui sont nos vulnérables aujourd'hui? Peut-être que ton voisin d'à côté n'est pas quelqu'un de vulnérable. Si tu as une maison, bien, peut-être que ton voisin d'à côté n'est pas quelqu'un qui est physiquement vulnérable. Mais qui sont-ils? Probablement nos réfugiés. C'est les étrangers, c'est les réfugiés qui viennent. Les sans-abri. Les personnes âgées qui sont un peu délaissées par leur famille ou qui n'ont pas de famille. Et un dernier point aussi que j'aimerais mentionner à ce niveau-là, qui sont les vulnérables? Ben, c'est les enfants qui ne sont pas encore nés et qui sont pas, qui n'ont pas été désirés par leurs parents. Un des péchés desquels que Dieu accuse Israël, c'est le fait qu'il... En tout cas, leur idolâtrie, je vais le lire à la fin du chapitre 7 avec vous. Jérémie 7, versets 30 et 31. Je vais commencer au verset 29. Il dit à Jérémie de se mettre en deuil. « Coupe tes cheveux et jette-les. Entonne une complainte sur les hauteurs, car l'Éternel rejette et abandonne la génération qui a provoqué sa colère. En effet, les Judéens ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. » Ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour livrer aux flammes leurs fils et leurs filles. Cela, je ne l'avais pas ordonné. Cela ne m'était pas venu à la pensée. J'ai déjà mentionné ça, abordé ce thème-là dans une prédication, je pense que ça fait plus qu'un an, mais... On pourrait se réconforter que notre société n'est pas si barbare. Mais comme pays, le Canada, l'Occident, a un genre de fierté d'une culture de l'avortement qui ressemble beaucoup aux pratiques des peuples cananéens. À l'époque, on offrait nos enfants aux dieux pour obtenir la prospérité, pour obtenir la pluie, les récoltes, le bétail nombreux ou pour des récoltes militaires, pour des victoires militaires. Et aujourd'hui, ceux qui font face à une grossesse non planifiée peuvent être, en tout cas souvent, ça va être un gros moment de crise, un gigantesque moment de crise pour ceux qui y font face. Cette grossesse non planifiée vient complètement compromettre notre bien-être, notre liberté. Le mariage puis avoir des enfants, c'est des choses qui vraiment te limitent ta liberté. Mais t'apprends à aimer, puis ça vaut plus cher que la liberté. Mais certainement qu'avoir des enfants, oui, ça vient compromettre ta liberté, ça vient compromettre tes finances, ta capacité à étudier. Ça peut nous attacher un lourd fardeau à un enfant pour la vie qu'on n'est pas prêt à avoir. Alors, pour différentes raisons, parce que cet enfant n'arrive certainement pas dans les conditions les plus optimales, parfois parce qu'il va avoir une maladie, il a un syndrome de Down. On décide pour lui que sa vie n'est pas digne d'être vécue. Ou essentiellement pour notre prospérité, pour notre bien-être, pour la commodité. On choisit comme société que la vie de ses enfants ne vaut pas la peine d'être vécue. Et nous mettons fin à leur jour. Je suis conscient qu'il y a certains cas médicaux, comme une grossesse ectopique, où le bébé ne sera jamais viable et risque juste de causer une hémorragie interne. Il risque de tuer sa mère. Donc, il y a des cas où il y a des avortements, des interruptions volontaires de grossesse qui doivent être faits. Je ne suis pas un spécialiste médical. Mais je sais que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une question de vie ou de mort pour la maman. Ou pour le papa. Mais notre réponse comme chrétien ne peut pas simplement être de condamner. Et dans l'Église, on est pécheurs, nous aussi, comme les autres. Puis dans des moments de crise, dans des moments où on place notre confiance en quelqu'un d'autre qu'en Dieu, on peut avoir fait des actes regrettables aussi. Mais il y a un pardon qui est disponible. Jésus est mort pour le meurtrier qui était à sa droite. Jésus est mort pour tous ceux qui se réfugient en lui. Et on peut oser venir avec Jésus, avec nos péchés les plus sales, avec les choses dont on a le plus honte, et obtenir pardon et paix pour notre passé. Mais c'est ça, les bébés pas encore nés, qui n'ont pas été planifiés ou qui n'ont pas été désirés, je propose qu'ils sont les personnes les plus vulnérables de notre société. Et je fais pas une campagne au niveau de faire des lois, qu'on devrait aller de ce côté-ci au niveau légal, qu'on devrait faire ça. C'est une question qui est plus complexe, puis je ne sais pas c'est quoi la meilleure chose au niveau légal. Mais au niveau moral, je sais que c'est un gros problème. Et les gens qui font face à une grossesse non planifiée dans votre entourage, ou d'autres qu'on ne connaît pas, ont besoin de gens qui vont prendre soin d'eux, qui vont leur dire qu'ils ont d'autres options, que c'est toujours possible de donner l'enfant en adoption aussi. Il y a des centaines, des milliers de familles, de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'ils aimeraient ça, être capables d'adopter un enfant et d'en prendre soin, comme le leur, qui vont en faire le leur. L'adoption est une réelle option. Et il existe toutes sortes de ressources aussi dans notre société, puis en tout cas, si on veut venir à prendre soin des vulnérables, il faut être prêt à aller souffrir avec ceux qu'on veut encourager à prendre soin. Lisiane vous a présenté ce projet de centre de grossesse qu'on a. Je suis reconnaissant pour le comité des responsables de l'Église qui me permet de prendre du temps dans ma charge pastorale pour aider à lancer ce projet-là. Je pense que c'est une façon comme Église, comme chrétien, qu'on peut prendre soin de littéralement ceux qui sont les plus vulnérables dans notre société aujourd'hui. Puis je vous encourage, je vous demande de prier pour ce projet-là. Je vous demande pour un changement de culture au Québec, au Canada, par rapport aux grossesses non planifiées. Que les gens puissent, ceux qui sont dans des situations de crise, de plus en plus réaliser que c'est pas vrai que l'avortement est leur seule option. Qui y a de l'aide et qu'on veut être là pour offrir cette aide-là. Le peuple d'Israël, donc en résumé, se confiait dans la religion extérieure, une confiance qui était mal placée. Bafouait la justice pour les faibles et les vulnérables, dont les petits-enfants, les immigrants, les veuves, les orphelins. Mais le peuple n'écoutera pas Jérémie, comme ils n'ont pas non plus écouté les prophètes qui l'ont précédé. Dans Jérémie 7, dans la majorité de Jérémie, on a cette annonce que la destruction de Jérusalem va venir. Mais si vous changez de bord, il y a encore une chance. Il y a encore une chance pour vous d'être épargné. Mais pourtant, ça devient de plus en plus un point de non-retour. Au verset 16, Jérémie 7, verset 16, Dieu parle à Jérémie et lui dit « Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais monter pour eux ni supplication ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Wow! Comment le peuple est descendu bas, que Dieu a dit « C'est assez. » C'est assez. Mais à travers ces annonces de destruction et d'exil, Dieu annonce aussi que ce ne sera pas la fin, qu'il va y avoir autre chose après. Dans Jérémie 12, à partir du verset 14, Dieu s'adresse aux nations voisines d'Israël et leur dit ceci. Voici ce que je dis, moi, l'Éternel, sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple Israël. Je vais les arracher de leur terre et leur arracher la communauté de Juda. Mais après les avoir arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Je les ferai revenir, chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et si de la même manière qu'ils ont enseigné à mon peuple à prêter serment au nom de Baal, ils apprennent sincèrement à suivre les voies de mon peuple jusqu'à prêter serment par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », alors ils auront leur place au milieu de mon peuple. Et en plein milieu du livre de Jérémie, les chapitres 30 à 33, et cette promesse d'une nouvelle alliance, d'un cœur nouveau que Dieu va donner, qui va inscrire sa loi sur le cœur de son peuple lorsqu'il va les ramener d'exil, qui va faire une nouvelle alliance que Jésus a dit, alors qu'il prenait le dernier repas avec ses disciples, que cette nouvelle alliance-là, elle était par son sang, que c'est le sang de Jésus qui est venu sceller cette nouvelle alliance que Jérémie annonçait. Oui, le peuple d'Israël allait partir en exil bientôt. L'exil est aussi une image du salut qui se trouve en Jésus. Jésus a été exilé loin du ciel, s'est rendu loin, a été battu, frappé, tué, été exilé dans la mort pour 3 jours. Puis il est revenu dans le pays, triomphant, glorieux. Et ceux qui se confient en Jésus n'ont plus à craindre l'exil, ni le jugement de Dieu, car il est déjà tombé. Abandonnons-lui notre vie. Confions-nous en Jésus. Notre refuge se trouve auprès de lui. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu 3 fois saint, Seigneur. De ce que notre soif de justice, Seigneur, tu la comprends, c'est toi qui l'as mise en nous. Et Seigneur, tu vas accomplir parfaitement ta justice en ton jour. Tout le mal dont nous avons été victimes, tu vas le juger. Et merci parce que celui qui devrait retomber sur nous, tu l'as fait tomber sur Jésus, sur ton Fils, notre Sauveur à la croix. Oui, Seigneur, apprends-nous à révèle-nous où on place mal notre confiance, Seigneur. Dans une organisation, une bâtisse, des rites religieux. Révèle nos cœurs partagés, Seigneur. C'est tellement une joie pour nous de venir adorer le dimanche matin. Et des fois, pas toujours facile même d'être fidèle à être là tous les dimanches. Mais ensuite de se confier en toutes sortes d'autres choses, d'avoir le cœur partagé envers toutes sortes d'autres intérêts, toutes sortes d'autres intérêts d'attrait pendant la semaine. Purifie-nous, Seigneur, lave nos cœurs. Puis donne-nous ton cœur pour les vulnérables, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont oubliés. Pardonne-nous notre égoïsme, Seigneur, qu'on est bien dans nos affaires, qu'on ne veut pas être dérangé. Merci pour Jésus qui n'a pas été comme nous. Seigneur, nous te demandons de nous transformer à son image. Pour ta plus grande gloire, pour le salut d'un grand nombre, pour notre plus grand bien. Au nom de Jésus.